Yaoranaritiki, je suis Johan Padin et vous écoutez mon podcast Booksta Auto-édition, dont voici le tout premier épisode. Tous les mois, je compte vous proposer une émission autour de l'auto-édition et le thème de ce premier podcast tourne autour des trois grandes manières de publier un livre en France. L'édition à compte d'auteur, l'édition à compte d'éditeur et l'auto-édition. Pour chacune de ces solutions, je vais balayer les avantages et les inconvénients et finir en partageant avec vous les raisons qui m'ont fait opter pour l'auto-édition. Car c'est tout l'objet de ces podcasts, partager mon expérience d'écrivain avec ses réussites et ses déboires. Et oui, je suis un auteur indépendant, auto-édité, et à ce jour, j'ai publié 5 romans sur Amazon, le 6e est en préparation. Si cette émission vous interpelle, n'hésitez pas à venir sur Insta pour échanger sur le sujet. Mon compte Johan H. Padin, tout attaché, vous est ouvert avec grand plaisir. Vous pouvez aussi retrouver le contenu de ce podcast au format textuel sur mon site auteur www.yhpadines.fr. L'ensemble de mes podcasts est disponible sur Spotify, sur Deezer et probablement sur d'autres plateformes que je ne connais pas. Si vous avez aimé cette émission, il ne faut pas hésiter à liker, partager et surtout venir en parler avec moi. J'adore échanger tant autour de la lecture que de l'écriture. Allez, c'est parti! Pour un jeune auteur, c'est toujours un choix cornélien que de décider de quelle manière je vais tenter de faire éditer mon roman. Et dans ce podcast, je vais donc vous expliquer les raisons qui m'ont conduit moi personnellement à opter pour l'auto-édition. Mais avant ça, on va parler des trois grandes manières qui permettent d'éditer un livre. Et on va commencer par les 5 rôles justement d'un éditeur. Le premier rôle d'un éditeur, c'est de sélectionner un auteur pour pouvoir le publier. Son deuxième rôle, c'est de peaufiner un manuscrit, de faire des corrections, de faire des suggestions d'amélioration. Son troisième rôle, c'est tout ce qui est maquettage, à la fois de l'intérieur et puis de la quatrième de couve, mais aussi la couverture, tout simplement, l'effet graphique, et donc ce qui va aller avec le volet de communication. Le quatrième rôle de l'éditeur, c'est l'impression, imprimer cet ouvrage, ou en tout cas le mettre à disposition pour qu'il soit lisible. J'inclus là-dedans la notion d'e-book, qui est beaucoup plus numérique. Et puis le cinquième rôle de l'éditeur, c'est d'assurer la diffusion, justement, des romans. Alors, la première manière la plus facile de faire éditer un livre, c'est ce qu'on appelle le compte d'auteur. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser sur ce sujet. En fait, la plupart du temps, l'édition à compte d'auteur, on est plutôt dans une logique d'arnaque. Voilà, faut appeler un chat un chat. Ça consiste à dire à un auteur qui a très très envie de publier son roman, c'est ton roman, il est génial, je l'ai lu, il est juste extraordinaire, et tu vas avoir un marché pour ça phénoménal, faut absolument que tu le fasses imprimer pour la postérité, tu mérites le Goncourt, mon fils. Le ressort principal de l'édition à compte d'auteur, c'est l'ego de l'auteur, justement. C'est pas péjoratif quand je dis ça, il faut vachement d'ego pour écrire et créer tout un univers et le soumettre ensuite à la critique du monde entier. Mais en fait, pourquoi c'est une arnaque? On vous a expliqué à quel point vous étiez génial en tant qu'auteur, que vos écrits méritent d'être publiés, et là on vous explique que si tu veux qu'ils soient publiés, il va falloir que tu payes pour ça. Et oui, là, vous sentez l'inversion d'offre. On va t'expliquer qu'il va falloir que tu payes parce qu'il y a des services derrière. Ces services, c'est justement la correction, la communication, la maquette, la couverture, tout ça. Et en fait, on va te faire raquer pour tout ça. C'est l'auteur qui va se retrouver à rémunérer quelqu'un pour faire les choses. Et ce quelqu'un, si demain c'est un succès, c'est lui qui va empocher l'essentiel des droits enfin des redevances en fait. Lui en fait, il s'en fout de vendre des bouquins puisque son vrai client, c'est l'auteur qui l'a réussi à arnaquer. Lui, il gagne de l'argent, hein, l'éditeur à compte d'auteur. Voilà, j'en parle pas plus. Pour moi, c'est clairement de l'arnaque. Il y a plein de solutions un peu hybrides. Des fois, ça paraît un peu louche. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même assez connu ce type d'arnaque. La deuxième modalité, eh bien, c'est l'édition à compte d'éditeur. Et là, c'est vraiment l'édition traditionnelle. Et là, on est sur un vrai métier. On est sur quelque chose de tout à fait sérieux. Et le but de l'éditeur, eh bien, ça va être de sélectionner les potentielles pépites de demain parmi des centaines, pour ne pas dire des milliers de manuscrits qu'il reçoit. Alors, ces pépites, il va les travailler afin de les rendre encore meilleures en vue de les vendre et de gagner un peu, voire beaucoup d'argent. Et donc, l'auteur, dans ce cas-là, est un, entre guillemets, simple pourvoyeur de manuscrits. Et c'est l'éditeur qui va tout faire, hormis, bien évidemment, le manuscrit lui-même. Et donc, c'est l'éditeur qui versera un pourcentage des ventes à l'auteur et il gardera l'essentiel de la somme. On va y revenir un petit peu plus tard. L'auto-édition, eh bien, c'est une troisième option. Et faut bien comprendre que l'auteur là va changer complètement de métier puisque il va devenir également, en plus d'écrivain, il va devenir éditeur. Et c'est à lui que va incomber les cinq rôles de l'éditeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier, c'était la sélection. Alors, on comprend bien qu'en auto-édition, c'est vite vu. L'auteur, il va pas se faire des nœuds au cerveau avec lui-même. Hein. Alors, c'est justement ce qui pose souci à pas mal de gens dans l'édition traditionnelle, puisque comme il n'y a pas de sélection, on peut potentiellement voir de tout et du n'importe quoi. Je vous renvoie là-dessus sur les vidéos YouTube de Michael Bielli sur des histoires de femmes, de dinosaures et de... j'en dis pas plus, allez voir, c'est tordant. Voilà, on va pas se mentir, l'auto-édition, il n'y a pas de sélection, donc ça... Voilà, il y a le meilleur et il y a le pire. Phase de peaufinage, c'était le deuxième rôle, ça va être le rôle justement de l'auteur auto-édité de corriger ou de faire corriger tout ce qui est orthographe, grammaire et parfois des questions scénaristiques. Et c'est un vrai métier et c'est là où, en fait, là où une maison d'édition sérieuse va rémunérer quelqu'un pour le faire, l'auteur édité, auto-édité, pour des raisons d'économie, va peut-être être tenté de ne pas chercher la ressource à l'extérieur et c'est souvent un tort. Pour ma part, les premiers romans que j'ai publiés, je n'avais pas de correcteur et on voit quand même la différence. On ne va pas se mentir, ça a un coût. C'est quand même quelque chose qui permet d'améliorer nettement la qualité des ouvrages et donc de redorer peut-être un peu le blason de l'auto-édition. Le troisième rôle, c'est le rôle du maquettage. Et moi, c'est celui qui m'amuse le plus, presque. Quand je dis maquettage, c'est à la fois la maquette intérieure, hein, vraiment la partie textuelle telle qu'elle va être imprimée quelque part, hein, donc avec toutes ces petites fioritures sur les pages, on parle vraiment de mise en page. Hein. Et en fait, ça, c'est assez facile à faire. Aujourd'hui, on a des outils qui sont extraordinaires, à commencer par Word. Hein. Word permet de faire des choses géniales. Après, je sais que j'ai des collègues qui utilisent des produits, des outils un petit peu plus sophistiqué, mais déjà avec Word, on fait quelque chose de vraiment génial. Après, il y a la maquette extérieure, la couverture. Moi, ça m'amuse de faire mes couvertures. Après, graphiste, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Là, il y a un vrai sujet. Pour ceux qui n'ont pas ni les outils, ni la fibre là-dessus et que ça gonfle, pareil, il va falloir confier ce travail-là à un graphiste. Alors, c'est payant, oui, mais l'auteur auto-édité, il prend les risques qu'aurait pris un éditeur avec le manuscrit de l'auteur. Là, il n'y a pas le choix, soit vous faites tout vous-même, et vous avez les compétences, soit sinon, effectivement, il va falloir payer quelqu'un pour ça. Quatrième étape, l'impression. Amazon a complètement révolutionné les choses là-dessus, puisque si vous êtes auteur auto-édité sur KDP, donc Kindle Publishing, vous avez la possibilité de faire des impressions, mais qui ne coûtent quasiment rien. C'est quelques euros un bouquin, là où il y a encore quelques années, vous pouviez payer 50 balles pour un bouquin à l'unité. Donc il n'y a plus cette notion de tirage comme on avait, tu l'as fait tirer à combien d'exemplaires? Non, grâce à Amazon, vous pouvez de manière très très compétitive faire imprimer un livre vivre à la fois. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui a permis d'ailleurs en grande partie le développement de l'auto-édition via Amazon. Cinquième étape, et c'est là où la plupart du temps le bât blesse, c'est l'étape de la commercialisation, ce qu'on appelle la diffusion. Et c'est cette étape qui est très compliquée puisqu'il va falloir que l'auto-éditeur génère lui-même ses campagnes de communication. Encore une fois, hein, c'est un vrai métier. Et ses campagnes commerciales, et je vous le donne en mille, commercial, c'est aussi un vrai métier. Et donc, l'auto-édition, vous voyez bien que ça ne s'improvise pas. C'est pas juste écrire des livres et puis après je les mets, je me fais trois posts sur Insta et puis rouler jeunesse. Non, en fait, faut avoir conscience que personne n'attend votre bouquin. Personne ne s'était imaginé vivre sans votre nouveau roman. Et donc, en fait, vous arrivez dans un marché qui est déjà sursaturé. Et si vous ne maîtrisez pas tous ces métiers un peu annexes, le correcteur, le graphiste, le marketeur, le vendeur, bah, ça va être compliqué de partir sur l'auto-édition. Alors, pour ma part, j'ai opté pour l'auto-édition après avoir expérimenté l'édition à compte d'éditeur dans une autre vie, hein, sous un autre pseudo. Et j'en ai été vraiment très, très déçu. L'édition à compte d'éditeur, il faut bien voir que ça a des avantages. Hein. L'éditeur gère les métiers connexes, donc l'auteur, il n'a pas à se soucier d'autre chose que son métier d'écrivain. L'éditeur, c'est aussi une source de reconnaissance. On ne va pas se mentir non plus. Dans le milieu, les gens pensent quand même que l'auto-édition, c'est de la sous-édition. Et ça flatte non seulement l'ego, hein, mais ça peut aussi booster une carrière d'auteur, un bon éditeur. Et puis, le manuscrit final est souvent quand même bien meilleur après le flux de correction itératif entre l'auteur, le directeur éditorial, le correcteur de niveau 1, le correcteur de niveau 2 pour la sémantique. On revient sur l'auteur et on recommence avec le directeur éditorial, etc. etc. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Par contre, bah, pour moi, il y a un double souci sur l'édition à compte d'éditeur. Déjà, une première question qui est à se poser et à poser à son éditeur s'il vous propose un contrat, bah, c'est quoi tes méthodes de diffusion ? Le problème, c'est que la maison que j'avais choisie, bah, en fait, il n'avait pas de diffuseur. Donc moi, je pensais être présent en librairie Roulet Jeunesse, et en fait, non, que dalle, aucune présence libraire. Le seul moyen de trouver le bouquin, eh bien, c'était soit d'aller sur le site internet de l'éditeur, pas beaucoup de flux, soit d'aller sur Amazon, et donc pas beaucoup de différence avec de l'auto-édition. Et puis, il y a un souci mathématique avec l'édition à compte d'éditeur. Bah oui, il y a des centaines, voire des milliers de manuscrits qui arrivent chez l'éditeur, et ben, il n'a matériellement pas le temps dans une semaine pour lire tout ce qui lui arrive. Alors, il va peut-être déléguer ça à des stagiaires, des comités de lecture. Il y a beaucoup trop de manuscrits qui arrivent, et donc il n'y a pas la possibilité de faire une sélection rationnelle comme les auteurs l'aimeraient. Et imaginez quand même qu'il y a des éditeurs qui ont refusé les manuscrits de J.K. Rowling. Imaginez comment il y en a qui doivent se bouffer les coucougnettes. Bah ouais, mais ça fait partie du jeu. Il y a un autre souci qui est pour moi plus gênant aussi, c'est que s'il y a contrat à compte d'éditeur, bah, l'auteur, il est simple pourvoyeur de manuscrits, avec des gros guillemets, il recevra une rémunération au pourcentage, ok, mais potentiellement, l'auteur, du coup, il devient complètement dépossédé de son ouvrage puisqu'il n'aura pas son mot à dire pour le titre, la couverture, la quatrième de couverture, les modalités de diffusion et les campagnes de communication. Et là, c'est l'éditeur qui va tout gérer, ou pas. Et ce ou pas, il est extrêmement important puisque dans ces cas-là, l'auteur n'a pas beaucoup de recours pour faire valoir son cas. Dans mon cas, l'éditeur, il n'a pas géré, comme je le disais, et il a même passé un an sans donner de signe de vie. Quand je rappelle, ah oui, on a fait des ventes, mais alors on n'a pas versé tes redevances, tes droits d'auteur, parce que oh, ben, il n'y avait pas grand-chose, donc on a gardé ça sur le compte. Si tu les veux vraiment, on te les enverra, bla bla bla. En fait, on ne découvre la médiocrité des maisons d'édition qu'après coup, et ça, c'est compliqué. Donc déjà, ne serait-ce que poser la question de la diffusion, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qui fait que l'éditeur ne fait pas forcément son job ? Ben, en fait, c'est de nouveau un problème de maths. L'éditeur, il doit prioriser, il ne peut pas mettre l'effort à part égale sur tout le monde. Lui, son but, c'est de trouver des pépites qui vont permettre de rentabiliser l'ensemble. Et du coup, bah, il priorise, et bah, comme dans toute activité business, bah, il y a deux grands filtres de priorisation. Le premier, c'est bah, les auteurs fortement bankable, avec lesquels il va pouvoir gagner beaucoup d'argent rapidement, soit parce qu'il y a une notoriété déjà établie ou un réseau. L'autre solution, l'autre filtre de priorisation, bah, c'est les copains. Et ces deux catégories, les auteurs bankable et les copains, bah, elles ne sont pas forcément incompatibles. Car oui, il y a quand même du copinage. Alors certains diront, il y a des relations de confiance qu'il faut nouer dans l'édition. Bah oui, c'est hyper prégnant. Si en tant qu'auteur, vous n'aimez pas ça et que vous voulez quand même aller en maison d'édition, bah, je vous invite à respecter la règle des 5C. C'est con, mais c'est comme ça, vous pouvez compter, il y en a 5. Le gros avantage de l'auto-édition, c'est l'indépendance totale, la liberté, avec bah, comme inconvénient qu'il va falloir faire tout seul, et ça nécessite souvent bien plus de compétences que celles qui sont requises pour être un bon écrivain. Après, bah, il y a quand même un avantage mathématique à l'auto-édition, bah, ce sont les finances. Parce qu'un éditeur vous rémunère au pourcentage, assez classiquement 8 à 12% des ventes hors taxes. Et donc sur un livre broché, mettons à 20 euros, bah pour lequel vous auriez un contrat à 10%, c'est déjà pas mal, vous allez toucher 2 euros par exemplaire vendu. En tant qu'auteur auto-édité, vous allez empocher ce qui revient de droit à l'éditeur, soit entre 5 et 7 fois plus par exemplaire vendu. Alors, voilà, si on simule sur le plus pénalisant un facteur 5, bah si vous avez vendu 300 livres via votre éditeur, vous allez toucher 600 euros. En auto-édition, vous allez toucher 3000 balles pour le même nombre de livres vendus. Il y a une autre manière de voir les choses. En vendant 60 livres en auto-édition, vous gagnerez autant qu'en vendant 300 livres en édition traditionnelle. Et 60 livres, c'est carrément jouable en attaquant directement familles, amis, en faisant jouer vos réseaux sociaux. Alors que 300 ventes, ça, c'est pas gagné. J'en reparlerai dans un futur podcast. Et c'est là le drame de l'édition. Hein. Passer par un éditeur, c'est pas nécessaire pour faire un carton. Il y a l'exemple de 50 nuances degrés qui le prouve. C'est pas suffisant. La plupart des livres édités à compte d'éditeur ne génèrent quasiment pas de ventes. Ce sont juste quelques pépites bankable qui font vivre le tout. En auto-édition, vous pouvez gagner du temps, des allers-retours, des compromis, de l'argent. Par contre, il faudra tout faire tout seul et ça n'a rien de facile. D'ailleurs, c'est tellement pas facile que je ne peux qu'en appeler à votre bon cœur. Ma duologie Vérité sauvage et Vérité cruelle est en vente sur Amazon et sur mon site web. Vous avez aussi Le Parfum de la Violette, un thriller fantastique. Vous avez AAA, ma dystopie, thriller d'anticipation. Et mon petit dernier de Tiki Fantasy, Varumoto, Le Fardeau de Taito. Donc, bah, si vous voulez soutenir un auteur auto-édité, bah, n'hésitez pas parce que vous voyez c'est vraiment pas un métier facile. Sur ce, eh bien, je vous remercie pour votre écoute et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur Insta ou en podcast. Ciao, ciao !